Avant de commencer l'émission, petit message pour vous dire que nous serons en live le vendredi 12 avril à 19h30 à Paris, au Club de l'Étoile, pour vous diffuser Les Ailes de l'Enfer de Simon West, suivi d'un enregistrement d'un podcast en live. Informations et réservations dans la description de l'épisode. Et merci encore au Club de l'Étoile de nous accueillir pour ce premier live.
Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie.
Je vais te fumer.
Alors, Claudia Durando, c'est votre moment, les auditeurs, pour vous exprimer sur le film et sur le podcast et même sur d'autres choses. On va regarder les avis des auditeurs sur le film et on va commencer avec Fucking Cinéphile qui dit SOS Fanzone tout en slime des années 80 où le processus de recyclage nostalgique de Jason Reitman est ironiquement hanté par le fantôme de son père, le défaut de vouloir jouer avec le passé plutôt que de le réinventer, même si cette exhumation a ses bons côtés, comme le film de 2016. Ali Donout nous dit j'en ai rien à foutre de Ghostbusters, mais cette fois, il y avait des acteurs que j'aime bien, donc j'ai passé un bon moment. Voilà, quand même. Alice nous dit Hollywood, stop making mid 80 films reboot, remake, legacy, quel challenge, impossible. On a Will Stitch qui nous dit un fan film pas mauvais qui joue à fond la nostalgie des deux premiers films et on peut même verser une larme à la fin pour la tribute envers Ramis. Avec le recul, on se dit que bon, ça ressemble vachement au premier. Maintenant, est-il mieux que la version féminine de 2016? Bah non. Et on va terminer avec Luc Negazaki qui nous dit quand j'ai vu revenir l'ancienne équipe à la fin, je me suis dit ils ont sorti de force des pauvres vieux de l'EHPAD. Sinon l'hologramme de Rami c'est cringe, c'est un sous Stranger Things mais ennuyeux que même Paul Rudd n'arrive pas à sauver. Je comprends pas la hype à la sortie.
En fait moi je comprends pas ce comparatif avec Stranger Things, vraiment je trouve que c'est super facile de le faire et je vois pas de rapport.
C'est pour l'acteur. Enfin, je pense que non, déjà c'est l'acteur.
Hormis ça, je veux dire, ça, esthétiquement, ça a rien à voir.
Non, ça a rien à voir, mais je pense que c'est le côté paumé. En fait, c'est le côté middle west.
Ouais, paumé, ça va où ça va. En plus, Stranger Things, les gens sont durs avec parce que c'est facile de taper dessus, mais c'est pas si mal, hein. Là, donc.
Alors, déjà oui, ouais. Mais je trouve quand même.
Oh, calme-toi.
Pardon. Ah non, vraiment. Hein,
la saison 1.
Hein.
La saison 1, ok.
Ouais, la 2.
Ah, le reste, non.
Non, je trouve pas ça.
La 3 est nulle, la 4 est bien.
Ouais, peut-être. La dernière, alors je sais plus.
La dernière ? Oh la vache.
Les épisodes d'une heure trente, ça me gonfle. Facile de dire oui, nostalgie, nanana. C'est pas le pire truc qui existe là-dessus, quoi. Non. Je vois pas.
Mais dans ce sens-là, c'est pas la pire série Netflix.
Bah non, clairement pas. Non, mais moi, pour moi, mais c'est le haut du panier. Il n'y a pas de problème. Hein. Oui, c'est sûr.
Ah non, c'est. Ah ouais, comme dit Marie-Clémentine, c'est tiédasse, hein. C'est vraiment
tiède. Oui, mais une fois que vous avez donné des évidences et que vous avez tapé comme tout le monde dessus, mais je veux dire, non, c'est pas si tiédasse que ça. Moi, je trouve que ça va.
Ouais,
ça,
en fait,
disons que ça ne fait que citer des choses, mais ça le fait relativement bien. Donc, ça me pose pas de problème quand c'est bien fait.
Moi, ça me rappelle toutes les mécaniques que j'aime pas, tu vois, des Goonies ou des trucs comme ça, des trucs d'aventure.
Tu sais à quel point je déteste les Goonies, tu vois.
Oui, mais non, mais je sais bien. Mais c'est. Je sais pas, mais ça me faisait pas le feeling. Et puis, le truc. Après, c'est une question de feeling, je pense aussi, sur. Sur l'esthétique, sur aussi bah, ce côté suivre des gamins, des fois t'es là quand même.
Alors des fois c'est chiant.
Ah, ouais.
Mais après c'est pas parce que c'est une copie que c'est horrible, tu vois. Je veux dire une copie de quoi, on saurait même pas trop quoi dire, tu vois finalement. C'est un peu bizarre parce que Stranger Things ça finit par trouver son identité en n'ayant pas trop. Là, c'est un peu compliqué, mais en faisant une espèce de melting pot de trucs, ça transcende jamais rien, c'est pas un problème. Mais bon, je trouve que esthétiquement déjà ça se tient. Et c'est ce que je lui demande. Hein. Moi, je ne lui demande pas beaucoup, pas grand-chose d'autre, en fait. Donc, je trouve que ça va. Et puis, en plus, je veux dire, il assume... C'est porté comme une médaille, tu vois. Le fait de récupérer des plots de tel ou tel truc, de ressortir les Russes, de faire des trucs comme ça. Donc, moi, à la rigueur, tu vois, d'intercaler ça dans une espèce de timeline pseudo-cohérente, ça va, quoi. Tu vois, hormis Millie Bobby Brown qui est un peu insupportable tout le temps, mais sinon, je trouve que ça va. Avec le casting général, en plus, c'est pas trop mal, quoi. Donc, voilà. Non, mais tout ça pour dire que, sous Stranger Things, je vois pas le rapport avec Ghostbusters Afterlife. Sous Ghostbusters, si tu veux, mais sous Stranger Things, je vois pas pourquoi, en fait.
Ouais, mais temporellement, quand tu prends Stranger Things et que tu vois Ghostbusters, le schéma, en fait, de mettre des gamins qui vont prendre un peu des vélos, qui vont aller à l'école, qui vont faire ci, qui vont découvrir du paranormal, qui vont t'en plein dedans.
Ouais, mais ça, c'est Stranger Things qui reprend les films des années 80, la hit, il est compagnie.
Tout à fait, mais en fait, la comparaison se fait.
Oui, bien sûr.
Je veux dire, la temporalité, Stranger Things, il a rien inventé, mais quand il est arrivé, je crois que c'est 2018, la première saison.
2016, il me semble, peut-être.
On n'était pas encore complètement rentré dans le repompage, en fait, J'ai dit,
ah, disons qu'il y avait eu Super 8, quoi, tu vois. C'est pour moi, c'est la suite.
Début de
c'est la suite de Super 8. J'aime beaucoup Super 8.
On était dans le début de la démarche. Tu vois, on n'était pas dans.
Oui, bah oui, bien sûr. Donc, attends, Super 8, c'est vachement bien réalisé, Luc.
Oh putain.
Bah si, quand même.
Ah. C'est une question, de feeling, c'est une question d'esthète, c'est une question de ce que ça montre, et moi ça me fait chier.
Pour moi là, on parle juste pile. Moi, je veux dire, quand on parle de ce truc là, on est littéralement dans des considérations qui sont simplement esthétiques. Parce qu'une fois qu'on a dit que c'était de la citation de la nostalgie, oui, d'accord, mais on l'a vu au bout de deux plans, tu vois.
Donc, oui, non, mais bien sûr. Mais ça raconte rien, si tu veux. Enfin, c'est Stranger Things et Super 8. Enfin, c'est des aventures à la con, quoi.
Je veux dire, bon, pas super, forcément. Super 8, non, je pense pas. Je pense que Super 8... Non, bah attends, tu parles d'un film de J.J. Abrams produit par Spielberg. Ça raconte des trucs qu'on a déjà vu 50 fois, mais ça raconte un truc quand
même. Ok, Capture Mag, pas de problème.
Mais non, mais pas vraiment. Alors, moi, je pense pas que c'est le genre à défendre Super 8, pour le coup. Mais,
je sais pas.
Ça raconte un truc, mais... Je veux dire, pour moi, on est dans des considérations purement esthétiques. Est-ce que c'est réussi esthétiquement ou pas ? C'est la seule question que je me pose devant ces trucs-là, parce que, bon, tu vois.
La question de la semaine, c'était les meilleurs films de fantômes, selon vous. Alors, Marvin va en citer 5, hein, c'est ce qu'il a dit.
Ah là là, non, j'en citerai 2.
Pour vous dire, on s'est engueulé en backstage parce que...
Même pas.
Parce qu'il y en a un qui avait pris ce film-là, puis finalement, j'en ai pris un autre. Ah, maintenant, je te le laisse parce qu'en fait, j'en ai un autre. Et puis voilà. Personne n'était d'accord, c'était incroyable. Enfin, juste 2 personnes qui n'étaient pas d'accord, finalement. Et on va commencer avec Karim. Karim, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Bah, je sais pas, Marvin, alors tu...
Fais ce que tu veux, Karim, je m'adapterai.
Non, je sais plus, je m'étais fait toute la liste des films fantômes. Le premier qui m'était venu en tête, c'était Fantôme contre fantôme, de Peter Jackson. Un film qui m'avait marqué quand j'étais gamin, et je trouve qu'on est vraiment dans l'esprit fantôme. Mais vu qu'il y a eu trop de discussions autour de ça, je vais être chiant, je vais faire mon faux cinéphile, je vais dire Shining. Je trouve que c'est un excellent.
Oh, il l'a fait. Oh, il l'a sorti de la carte Kubrick, le con.
Mais tu sais que c'est moins bien que le livre, que c'est pas exactement la même fin.
Alors, c'est pas moins bien, c'est juste très différent.
Est-ce que t'étais au courant que c'était pas tout à fait pareil ?
Oh, va sucer des connards. C'est les couilles. Moi, j'étais prêt à faire 25 minutes de fantôme contre fantôme à la base.
Je préfère Dr. Sleep, hein, tu sais.
Va mourir. Mais ouais, je m'arrête. Meilleur film de fantôme, ça sera Shining, parce que meilleur film de fantôme, parce qu'il y a des vrais fantômes dedans, ou pas, peut-être. Voilà, tu vois, mais c'est...
On ne sait pas, hein, un mystère flou. Hein.
Au moins, c'est pas des fantômes, voilà. Ils font vraiment peur. Voilà.
Manu, de ton côté.
Ouais, je vais faire... je vais pas être super original. Enfin, si, c'est peut-être plus original.
Ouais, sûrement.
Simple. Crimson Peak de Guillermo del Toro, que j'aime beaucoup.
Ah, on continue la volée Guillermo del Toro.
J'aime beaucoup Jessica Chastain et Tom Hiddleston. Et je sais pas, il y a un truc. Alors en plus, c'est le film de fantôme qui te dit au début, ce n'est pas une histoire de fantôme. Et du coup, pourquoi ça j'avais pas eu. Mais donc voilà, gros cerveau. Mais je sais pas, il y a une vibe et une esthétique dans ce film que j'aime beaucoup. Et en plus, j'aurai toujours le souvenir de ma séance de cinéma. Où j'ai un de mes meilleurs potes au moment où un personnage donne un gros coup de pelle dans un autre personnage qui a crié dans la salle « Oh, le coup de pelle !» du coup, meilleure séance.
Emporté par le film.
Meilleure séance rien que pour ça.
Non, et puis esthétiquement, c'est fou, Crimson Peak. C'est vraiment le
gothique. Il y a quand même quelqu'un dans le chat qui a cité Fantôme avec chauffeur, alors je vais peut-être changer ma reco, du coup. C'est le top du Gérard Jugnot universe, tu vois. C'est vraiment le feu, Fantôme avec chauffeur.
Ça cite Casper 3 fois en le meule leur tout.
Ah, oui. Mais là, par contre, vous voyez, ça, c'est la mauvaise nostalgie.
Ça, c'est la mauvaise nostalgie.
Non, ça, non. Tu vois, et j'avais la VHS, je l'ai poncé. Faut le savoir. Ça, par contre, j'ai...
C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Ah, super.
Mes premiers traumas, c'est Casper qui tombe malade.
C'est Casper. Ouais.
C'est la luge. Hein. Moi, je ne monterai jamais sur une luge de ma vie. T'es fou.
Marvin, allez, vas-y. Meilleur film de fantôme.
Alors, moi aussi, je voulais citer Fantôme contre fantôme, mais Karim m'a dit je voulais le dire aussi. Donc, au final, personne ne va en parler. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc Fantôme contre fantôme, de toute façon tout le monde le connaît, de Peter Jackson, voilà, c'est très très bien. Du coup, je vais citer un autre film de Guillermo del Toro, et vu que je suis cinéphile, vous comprenez, je vais citer son film espagnol, hein. Je vais citer Les Chines du Diable, voilà, donc pas du tout, hein. C'est qu'on m'a rappelé son existence avant l'enregistrement, et je me voyais pas ne pas le citer. Donc Les Chines du Diable, qui je pense doit être dans mon top 2, top 3 del Toro, qui est son retour... qui est son retour vers, vers une autre industrie après son premier passage à Hollywood un peu foiré, qui était Mimic.
Oui, parce que c'était avec les frères Weinstein, non, c'est pas ça qui s'était fait
avec, c'était avec
ça,
les Weinstein qui avaient eu un problème, et puis avec le nom du réalisateur m'échappe, mais qui avait participé au montage, en gros, qui était l'envoyé des Weinstein pour lui pourrir un peu le... C'était pas Robert Rodriguez, d'ailleurs.
Oh.
C'est peut-être bien lui. Faudrait vérifier, mais il me semble qu'il y a Robert Rodriguez qui était dans le coin, ou enfin quelqu'un dans le genre, quoi. Et bref, le retour à l'industrie. Je crois que c'est un film espagnol, hein, pas mexicain d'ailleurs. Mais oui, c'est le premier, hein, avant le Labyrinthe de Pan. Du coup, c'est des films tournés en Espagne. Mais voilà, Les Signes du Diable, si vous l'avez jamais vu, c'est absolument incroyable. Je saurais pas trop comment vous le décrire. Je pense vraiment que c'était c'était le film de Del Toro qui mettait déjà une branlée à tout le monde avant la vague de l'horreur espagnole type Amenábar et compagnie, quoi. Enfin, vraiment, je veux dire, je pense qu'il y a, s'il y a besoin de chercher une source à tout ça, elle est là, tu vois, sans aucun problème. Et puis, bon, bah, comme d'habitude, dans ce genre de... Je viens de vérifier. Enfin, Alisa a vérifié pour moi que c'était bien Robert Rodriguez qui était le bras armé...
Le casse-couille.
Qui était le bras armé des Weinstein sur Mimic et qui... à revendiquer la moitié de la réalisation, bref, enfin tout ça. Mais
super.
Mais donc Les Chaînes du Diable, voilà, film de fantômes incroyable. Alors c'est pas forcément un film de fantômes très très horrifique avec des fantômes menaçants. C'est pas de là que vient la vraie menace, hein, un peu comme dans Crimson Peak d'ailleurs, ou dans le Labyrinthe de Pan, tout ça.
De Pan,
mais,
ouais.
Mais voilà, en plus c'est un film absolument magnifique. Il a été restauré il y a 2-3 ans, donc maintenant on peut le voir dans des conditions incroyables. Donc voilà, Les Chaînes du Diable, c'est parfait.
Chef-d'œuvre.
Chef-d'œuvre.
Si on faisait un classement, là, vite fait, Marvin, Les Chiens du Diable, avant ou après Labyrinthe de Pan?
Ah, je le mets au-dessus.
Ah, tu le mets au-dessus, ok, ok.
Ah, oh, ouais, je le mets au-dessus, ouais. Je pense. Ah, Labyrinthe de Pan, moi, je le mets assez bas. Hein.
Ok.
Si un jour on fait un Guillermo Super del Toro battle, tu vois, moi, le Labyrinthe de Pan, je le mets bas, et je crois que Crimson Peak, je le mets tout en bas, pour tout vous dire. Et ça en fait pas un mauvais film. Hein. C'est juste que la film. Alors, il y a Mimic en dessous.
Bah, oui, Mimic, il est un peu le raté.
Tu vois, genre Chronos, par exemple, je le mets très haut. Enfin, voilà, quoi. Donc, je sais pas, c'est compliqué. La filmo est dense. Et... Ouais, moi, j'adore La Forme de l'eau, je le mets très haut aussi. Donc, c'est compliqué, en fait. Pour moi, Crimson Peak, je le trouve magnifique. Mais Blade 2, je le mets assez haut. Hein.
Je sais pas. Ça a mal vieilli, quoi.
Hyper stylé, Blade.
Ah, c'est bien, Blade 2, quand même. C'est pas que ça a mal vieilli, Luc. C'est que tant d'années après, il est toujours en avance sur son temps. C'est ça que... Évidemment. Bon,
j'ai déjà entendu ce discours.
Ouais, je sais. Il est toujours, mec. Et puis, en plus, c'est la seule chorégraphie de Donnie Yen aux États-Unis, tu vois.
Qui soit pas charcutée ou mal branlée, quoi.
Alors, elle est totalement charcutée. Del Toro a fait n'importe quoi avec, mais elle a le mérite d'exister.
Elle est là. Elle est là. Ça marche. Moi, en meilleur film de fantôme, j'avais noté, alors c'est un vieux souvenir parce que c'est un film qui m'avait marqué, mais c'était Dark Water de Hideo Nakata, qui était le réalisateur déjà connu de Ring, que je déteste. Hein. Ring, la version
j'aime
japonaise,
pas
j'aime pas non plus. Mais par contre, The Ring de Gore Verbinski.
T'es un ouf, toi. T'es un ouf.
J'adore.
Oh non, ouais, non.
L'appropriation culturelle et tout. J'adore ça.
Je regardais ça.
Parce qu'en fait, Ring, l'idée, c'est en fait. Pour bon, rappel, le Ring, c'est l'idée qui est super cool de la cassette où tu la regardes et 7 jours tu meurs, il y a une fille qui sort de la télé et t'es mort, quoi. Et ça, c'était vraiment le sur le speech, comme ça, le pitch, vraiment bien. Mais le film japonais en lui-même, vraiment nul. Enfin, je trouve que vraiment,
C'est pas nul, mais moi,
claqué.
Ça m'ennuie, quoi. Mais t'as raison, Darkwater, par contre, c'est fou.
Darkwater, par contre, c'est parce que Hideo Nakata, c'est pas un réal de fou. Non plus, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est solide, mais c'est pas quelqu'un qui va te faire des tubes tout le temps, quoi. Et Darkwater, c'est vraiment là, je sais pas, il y a eu une espèce de convergence, parce qu'en plus il s'inspirait d'un roman, mais c'est Darkwater, ouais, c'est complètement fou. Alors pour le pitcher vite fait, c'est en fait une mère et sa fille fraîchement divorcées qui galèrent déjà pour se loger, qui est dans un HLM un peu pourri, et qui en fait va voir son logement se délabrer au fur et à mesure, devenir de plus en plus humide, il y aura de l'eau, ça va t'envahir d'eau, et puis il y a une apparition photomatique d'une femme qui va devenir de plus en plus présente et qui va intervenir aussi sur la vie de la petite fille. Enfin, il y a plein de scènes comme ça, où la petite fille se retrouve toute seule face à ça, planquée. Enfin, il y a des scènes de fou. Et ouais, esthétiquement, c'était incroyable. Même thématiquement, je trouvais que c'était assez fou parce que ça parlait vraiment aussi de la délitation en fait, de la famille nucléaire, quoi, dans la société japonaise. Donc, il y avait vraiment pas mal de choses. La musique est vraiment bien. Et puis, c'est très émouvant. C'est très, très émouvant. Je trouvais que c'était un film absolument pas bouleversant dans le sens où c'est triste, vraiment. d'eux-mêmes que de l'origine du fantôme et de la, disons, de la suite en fait de l'histoire de la fille et de la mère, quoi, comment ils vont s'en sortir de ce bordel. C'était vraiment un film vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment un tube et esthétiquement, ouais, c'est un film assez fou de ce qu'ils ont fait de ses effets, de comment il instaure la peur, la panique. C'est, moi, je trouvais que c'est vraiment incroyable et c'est pour moi un des meilleurs films de fantômes. Alors après, il y avait les autres aussi que j'aimais beaucoup. Je sais que c'est très classique, mais j'aime beaucoup les autres. Ne pas de faire de réussir à faire peur avec rien, ça je trouve ça fou, mais voilà, en tout cas dans les meilleurs films de fantômes.
Est-ce qu'il y avait Paranormal Activity, non, tu kiffes pas toi?
Ah, j'adore Paranormal Activity, j'adore, ouais. Bon, franchement j'adore
Conjuring, j'adore Conjuring, Conjuring 2, tout ça.
Conjuring,
bah, ouais, non. Moi je
back Insidious up, hein. Insidious, oui.
Ouais.
C'est juste mieux.
Paranormal Activity, je sais que tu kiffes, mais non, mais vu que t'as dit ne faire peur avec rien, ça c'est ton.
Ah bah oui, mais Paranormal Activity, c'est un exemple. Ouais. C'est un exemple de comment faire peur avec rien du tout, quoi. Pour le coup,
il y a des gens dans le chat, ils citent Gothica et tout, vous êtes des malades.
Ouais, vous êtes chauds. Ah,
malades.
Gothica, pas dit citer des films avec des fantômes.
Calibéry, non.
Ouais, ah ouais, c'est de Mathieu Kassovitz.
Alors,
Mathieu Kassovitz in the USA.
IP, c'est la chanson de Limp Bizkit. Voilà, ça me fait peur.
C'était quoi déjà?
Promotionnel. Putain.
Ah, c'était Behind Blue Eyes.
Behind Blue Eyes, voilà.
Qui racontait l'histoire du film en plus. Elle racontait le pitch. Oui, une reprise, mais pitchait le. C'est une reprise des Who. Mais pitchait le film. Non, Will Stitch, c'est pour la galerie. Que dalle. T'as cité. T'assumes, mon gars. Non, mais attends, les mecs.
T'es nul.
T'étais pas obligé de le citer, hein. Après, on t'a pas forcé. Hein.
Donc voilà nos meilleurs films de fantômes selon nous. Et on va passer aux recommandations culturelles. Et je vais commencer encore avec Manu. Manu, est-ce que c'est Apple TV qui nous fournit encore des séries cette semaine?
Non, figure-toi. Non.
Ah putain.
Non. À la première recommandation, c'est parce que le fameux, comme tu le dis, Milk Plus, mais MLK Plus, c'était chez moi en l'occurrence samedi. Et à un moment, il m'a fait...
Big up à lui.
Si tu veux, on relance The Leftovers. Et du coup... un truc avec Carrie Coon qui est bien. The Leftovers, c'est vraiment très bien et c'est sur le Pass Warner de Prime. Mais sinon, en série que j'ai découvert.
Mon Dieu.
C'est pas jeune parce que je crois. Enfin, c'est pas jeune. C'est pas neuf parce que c'est de 2021, je crois. Mais vous connaissez mon amour, justement, pour l'horreur que je ne regarde pas. Il faut me convaincre. Et j'ai regardé une série de quelqu'un dont on a cité un film tout à l'heure, Dr. Sleep, donc Mike Flanagan. J'ai regardé.
Incroyable.
Maté Midnight Mass.
Midnight Mass.
Ce week-end de Pâques, je ne sais.
Et alors?
Le timing de mater Midnight Mass, un week-end de Pâques incroyable. Puisque
c'est vrai que j'avais fait un lobbying pour Midnight Mass dans le groupe Shootlist à un moment donné.
Ça a marché.
Devant, en fait.
C'est incroyable.
Ah, c'est incroyable.
J'ai trouvé ça, ouais, incroyable de bah déjà, enfin, ça serait spoiler l'histoire, mais. La gestion qu'ils ont de la mythologie horrifique et mêlée à la chrétienté est extrêmement, extrêmement bien gérée. Les acteurs sont tous au top, la direction aussi. Et vraiment, alors ça me donne un peu envie d'aller mater cette série, mais je trouve vraiment que... Et les thèmes sociaux que ça aborde à travers le côté horrifique sont vraiment, vraiment bien gérés, quoi. Donc ça me donne envie de mater d'autres de ces séries. Alors certains, dont le fameux MLK, me disent que c'est sa pire série. Moi, d'autres potes me disent que c'est sa meilleure série. Donc je ne sais pas, je regarderai d'autres pour voir.
Laquelle? De quoi?
De quel côté?
Midnight Mass.
Pour moi, Midnight Mass, c'est la meilleure, mais il n'y en a pas de mauvaise.
Ouais, non, je pense
pas. Ça veut dire, en tout cas, on a parlé de fantômes, mais du coup, il y a Hila aussi.
Mais Midnight Mass, après, c'est vrai que c'est assez particulier, parce que moi, tu me l'as vendu, c'était compliqué. Enfin, je veux dire, c'est quand même un film où c'est des gens qui... En fait, c'est beaucoup...
C'est une série.
Ouais, non, mais c'est une série, mais qui c'est beaucoup de gens qui parlent, c'est beaucoup de gens qui se questionnent sur leur propre foi. Et
ça va vite, en l'occurrence, parce que moi, je me suis retrouvé à deviner des trucs, parce que j'avais un petit peu du contexte de ce dont ça parlait. J'ai deviné des trucs épisode 2, et en fait, épisode 3, t'as plus de doute, et il y en a 7, quoi. Donc c'est juste, ça vrille, tu vois.
Mais ça passe très vite, franchement, ça passe très vite, hein. Ouais. Ça passe très très vite, hein. C'est très très rythmé.
La manière de traiter, justement, hein, une des grandes figures, créatures de l'horreur, comme vous voulez, on va pas dire ce que c'est, mais enfin, je trouve que c'est brillant, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ouais, et puis le côté endoctrinement religieux en face qui va aveugler les gens face au truc.
Mais regarde les autres, hein, parce que franchement, moi je trouve que c'est sa meilleure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est la pire. Mais moi je trouve vraiment que c'est le truc le plus maîtrisé.
La pire à ce qui paraît, c'est The Midnight Club.
Oui, j'ai pas vu par contre, on m'a dit que c'était pas la peine. Mais même sa dernière, là, comment ça s'appelait c'était
La chute de la maison
Usher. La chute de la maison Usher, voilà, qui n'est pas la chute de la maison Usher.
Il y a un peu putassière, mais qui fonctionne.
Évidemment. Hey, j'ai cru, voilà. J'ai imaginé pendant des mois la villa de Usher qui s'écroule sur lui.
Qui s'écroule.
Mais en vrai, l'adaptation d'Edgar Allan
Poe. Et à la fin, il danse, fait yeah.
Avec Lil Jon qui arrive par-dessus. Mais en vrai, non, c'est pas ça. C'était pas mal. Mais en tout cas, les
c'était
deux...
C'était mieux.
Non, parce que j'ai quand même... Enfin, j'espère qu'on verra ça un jour. Mais ces deux premières séries et celle-là, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Et Doctor Sleep, c'est vachement bien aussi. Donc,
Ah oui, le film Doctor Sleep, ouais. Ouais, la version Director's Cut, parce que c'est ouais. Ça, il a été charcuté.
45 minutes de plus, je crois.
Ouais, c'est ça. Oui, par contre, oui, c'est, ouais, t'y vas, tu prends toi-même ton billet pour 2h30 quoi, de film, quoi, mais ça marche. Ça marche plutôt
bien. Lâcher une suite à Shining, c'était en 2019, du coup, je crois.
Ouais.
Oui, tout à fait.
Ouais. Permettre de mettre 2h30 parce que les gens ils vont attendre des trucs.
En plus, elle avait été écrite, donc c'était le moment, quoi. Mais je trouve que c'est bien fait. Enfin, franchement, la manière d'aborder justement le pont avec le premier, tu vois, le retour de l'Overlook et tout, c'est vraiment bien.
J'ai toujours pas maté, hein. Du coup, je pense que vu que...
Ah, je croyais que tu l'avais vu, en fait, je n'ai pas compris.
Je vais le mater. Ben non,
Doctor Sleep, vraiment très bien.
Ah, d'accord. Eh ben, chope la Director's Cut, du coup, fait trois quarts d'heure de plus, mais bon, c'est bien.
Donc, Midnight Mass pour Manu et The Leftovers. Karim, de ton côté.
Alors, j'ai beaucoup joué à la console, mais je pense que tu as déjà parlé de Rebirth, donc je vais pas en reparler.
Oui, on en a déjà parlé un petit peu, ouais.
Ouais, non, si, truc débile, absolument pas chef-d'œuvre, mais qui me régale en ce moment. Alors, tout pareil, c'est mon distributeur officiel, c'est Crunchyroll. Je me suis mis à Mashle, Magic and Muscle. C'est un animé super bon, en
ça
gros.
Ça fait rêver.
De ouf.
Déjà, ouais.
Tu prends l'univers d'Harry Potter, tu le mets dans un animé japonais, tu transformes Harry Potter en Saitama, en fait, clairement, le mec est surpuissant, et tu mets que des gags de lycée à la con avec de la magie et de la bagarre au milieu. C'est très drôle. Alors
c'est Sakura, en fait.
Non, c'est vraiment débile, c'est un humour un peu la Gintama, je veux dire, c'est vraiment con, c'est vraiment okay. Con, c'est l'humour très japonais, où, voilà, t'as un grand frère qui amoureux sa petite sœur, c'est marrant, voilà. C'est super court, en vrai, parce que pour l'instant, il y a deux saisons, c'est des saisons de 10-12 épisodes, ça se bouffe super vite. Absolument pas, enfin le fil rouge tu t'en fous, hein, je veux dire, c'est Poudlard en plus vénère, hein, parce qu'ils ont tout pris pareil, hein. T'as des maisons, ils ont des concours de quéquettes avec des pièces d'or, il y a du Quidditch à leur manière, complètement pété. C'est super, ça, c'est la grosse détente, c'est très débile. Je crois que c'est à cause de TikTok, ou grâce à TikTok je me suis mis à ça, parce que l'opening de la deuxième saison a fait une grosse trend et c'est un morceau ouais. De pop japonais qui m'a beaucoup fait rire. Bref, je vous le conseille parce que c'est sans engagement, ça sera pas très très long, et c'est cerveau très reposé. Et il y a vraiment des vannes qui sont excessivement drôles. Voilà, donc je vous conseille Mashle, c'est dispo sur Crunchy.
Crunchyroll.
Ouais, c'est ça. C'est adapté, juste attends, parce que je sais qu'il y a un manga qui est encore en cours. Non, bah, ça termine en 2022, il y a 12 tomes, donc je pense qu'ils vont pas tirer beaucoup plus loin que ce qu'il y a là, donc c'est genre produit facile consommation.
Ouais, voilà, série courte, voilà, pour consommer facilement. Marvin, de ton côté ?
Moi, Marocco, elle va être totalement inattendue, mais Marocco, c'est Roadhouse.
Ah oui,
c'est Roadhouse sur Amazon Prime. Parce que c'est pas mal. En fait. Parce que c'est pas mal du tout. C'est pas mal
c'est
du
plus
tout.
C'est croire.
Comme.
Qui croire.
Bah non, mais moi, je vous dis.
Non, parce qu'on a une version où Vesper dit que c'est de la merde. Mais voilà.
Oui, mais bon, je sais bien, mais je l'entends et je le reconnais ce discours. C'est parce que c'est pas le même film. Bah oui, mais on l'a déjà eu.
C'est le discours de la haine, c'est ça ?
Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que bon, c'est pas le même film. Bah oui, mais bon, vous l'avez déjà, donc je voulais pas le même. Bon, voilà. Donc non, moi je le trouve plutôt.
Il résout le problème.
Alors déjà parce que Doug Liman, c'est quand même un vachement meilleur réalisateur. On l'a vu pendant toute sa filmo que Roddy machin là ou Dean Cundess que vous voulez. Bref, c'est quand même plutôt pas mal réalisé. En fait, c'est cheapos, mais cheapos cool, quoi. Tu vois, tu sens qu'il y a des raccords numériques dans tous les sens, mais ça donne un espèce de dynamisme cheap que je déteste pas dans ce genre de prod, quoi. Et au final, le film, malgré ce que j'ai entendu, et c'est ça que j'ai du mal à capter dans le discours, c'est qu'il se prend vachement moins au sérieux que le précédent. Parce que ce qui nous faisait vachement rire, justement, dans le Roadhouse de l'époque, c'est qu'il se prenait super au sérieux avec
c'est
la filo.
Super au sérieux.
Alors que là, pas du tout. Le film est totalement conscient de l'absurdité de son propos, au point où il en joue parfois un peu trop. Tu vois, il y a un bar routier qui s'appelle le bar routier, donc le Roadhouse. Hein. À un moment, il va dans un hôtel, c'est un bateau, l'hôtel s'appelle le bateau. Tu vois, The Boat. Donc voilà.
Oui, parce que c'est un mec qui nomme des trucs comme ça très simplement. Parce que c'est l'oncle qui est complètement con.
Ouais. Il travaille au Roadhouse, il vit sur The Boat. Tu vois, voilà. Le film il te ment pas du tout sur la marchandise. C'est assez c'est assez rigolo, en fait, dans l'ensemble. Voilà, il y a des gens en roue libre dans tous les sens.
Ah ouais.
Il y a beaucoup plus d'action que dans le précédent, mine de rien. Et je trouve les scènes d'action, bah, relativement
bien chorégraphiées, ouais.
Voilà, relativement bien chorégraphiées. Et puis, encore une fois, de toute façon, Doug Liman, voilà, je veux dire, on connaît sa filmo. On sait, pareil, que c'est pas un nom qu'on cite quand on cite les plus grands, mais c'est un mec qui fait toujours bien le boulot. Et il le fait relativement bien dans Roadhouse. En plus, le film est pas moche. Alors t'as Conor McGregor qui est toujours un peu gênant, hein, mais
il est complètement roulé, bon.
C'est Conor McGregor, quoi. Donc forcément, il peut pas être autre chose que il peut pas être autre chose. Alors c'est le personnage, mais c'est lui aussi, c'est la même personne, quoi. Donc il peut pas être.
Hey, mate.
Il peut pas être autre chose que gênant, finalement les scènes entre lui et Gyllenhaal, il faut avouer qu'elles fonctionnent. Hein. Donc
Gyllenhaal qui est incroyable parce qu'il joue vraiment son rôle. Un peu dans le spectre autistique. C'est vraiment, oui, des fois, il est complètement en décalage.
En fait, ils ont réinterprété le personnage de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas philosophe cette fois-ci, tu vois, il te fait pas des trucs. voilà. Non, c'est juste qu'il est vraiment dans la gestion de conflits. Tu vois, genre, dès qu'il y a une embrouille, il fait genre, non, mais vous êtes sûr, ça va aller, l'hôpital, c'est où? Tu vois, vraiment, il est dans une détente absolue.
La scène,
en fait.
Il défonce la gueule des mecs, il les amène à l'hosto.
Oui, voilà. Et
complètement.
Voilà, il est dans une. Tiens, avant de se battre avec eux, il leur fait, bon, l'hôpital, c'est où? Parce que machin, tu vois, il est vraiment dans une détente absolue. Et donc ça marche plutôt pas mal, en fait. Il réussit de manière bizarre à être encore plus absurde que le précédent. Ce qui est fou, tu vois, dans l'idée. Je sais pas ce qu'ont vu les gens qui l'ont trouvé très sérieux. Je comprends pas comment vous pouvez prendre ça au sérieux. Mais bon.
Non, je pense que ça, en fait, c'est le côté. Je pense que c'est. Alors, moi, je l'ai vu, du coup, j'ai trouvé ça pas mal. Mais c'est le côté esthétique, je pense. Le côté esthétique, peut-être qu'il manque.
Oui, il n'y a pas de néon.
C'est un peu bourrin, tu sais, un peu. Mais même un peu beauf, tu vois. Et je pense que c'est beauf, mais c'est beauf de la
façon. C'est quand même vachement beauf,
plus...
hein, je veux dire,
oui.
D'une certaine manière.
Mais disons que c'est un peu plus aseptisé, si tu veux, dans le sens où, tu sais, t'as. Bon, voilà, c'est de la beaufitude, mais t'auras jamais, tu vois, les paires de cul gratos ou les paires de nichons que t'avais dans les années 80. Mais je pense que c'est ça aussi que les gens voulaient trouver d'une certaine manière, tu vois.
Bah, mais vous savez très bien qu'on ferait pas de film comme ça, et en plus, vous auriez braillé s'il y en avait de l'objectification au même niveau que le précédent. Non, mais c'est vrai. Les gens
dans le chat, on a vendu le secret de comment le regarder. Luc l'a vu en mode ciné, Lee en calbar, donc il était en bonne condition.
Il était en cosplay à Jack Gyllenhaal, chemise ouverte et tout. Tu vois, bon, voilà. Personne n'hygiène à ses abdos, sachez-le, c'est sûr. Mais il a taffé de ouf, il est plus balèze que jamais. Hein. Merci. D'ailleurs, c'est même que... Conor McGregor a pris à peu près. C'est un truc qu'on a remarqué par rapport à ses combats et par rapport à comment il est dans le film. Il a dû prendre 30 cm de largeur d'épaule, hein, quand même. Mais, mais voilà, moi, je trouve ça... Vous auriez braillé s'il y avait eu des nichons et des culs à tous les plans en 2024. Non, mais c'est vrai. Donc, évidemment, on ne peut plus faire ça. Donc, voilà. Mais je trouve que le film le réussit plutôt pas mal, en fait. Voilà, je trouve ça sympa. Encore une fois, hein, il ne faut pas arriver devant un remake de Roadhouse, qui n'était déjà pas un chef-d'œuvre, et s'attendre à un chef-d'œuvre. Enfin, c'est pas possible. Hein, dans l'idée, voilà, on a un attachement à Roadhouse, moi le premier, d'accord, mais j'ai pas de mal à ce qu'on y touche, ça va. Donc non, je trouve.
Après, il y a eu juste le shitstorm sur le film, c'est effectivement le fait que. Alors, c'est le réalisateur qui a gueulé parce que c'est Amazon qui l'a racheté, les droits de distribution, et qui ne l'a pas diffusé du coup au cinéma, mais sur sa plateforme. Et Doug Liman, en fait, on voit dans comment il l'a fait.
Non, je sais, on avait raconté.
Beaucoup de plans larges, beaucoup d'emprunts western et tout. Et du coup, il trouvait ça dommage, en fait, et même pas juste dommage, ça lui cassait les couilles, justement, que ça soit diffusé sur une plateforme et non au cinéma. C'est ça.
D'ailleurs, le film est un peu lourd là-dessus. Hein. C'est vrai que le métafilm qui te dit t'as une gamine qui lit des bouquins et qui fait « Ah tiens, je vais te lire cette histoire, c'est un western et tout. » Oui, on avait compris. Il y a Golgo qui nous dit « McGregor, on dirait il fait 1m30. En vrai, il fait 1m75, ce qui n'est pas beaucoup plus grand. » Mais voilà. Mais... en fait, il est beaucoup trop musclé par rapport à sa taille. Ça crée un truc bizarre.
Oui, il est en 16-9e, il est vraiment 16-9e pour le coup.
Ouais, il a vraiment le physique basic fit, quoi. Tu vois, genre 1m60, 100 kilos, quoi. Donc voilà. Mais il était en poids léger à l'époque. Je pense que maintenant, il rentre plus dans la KT. Hein. J'ai hâte de voir.
Oui. Ah non, bah plus, il cut plus depuis des années. Donc, effectivement.
Il était en train de s'entraîner en théorie. Hein, avant la promo du film, il devait revenir. Mais ça fait 10 fois qu'il doit revenir. Donc,
ouais, non, mais il a été programmé. Mais je pense que c'était.
Mais là, on l'a revu dans une interview. Où il a l'air totalement sous des substances improbables. Je vous la recommande au passage, la dernière interview de Conor McGregor, je ne sais plus pour quelle télé c'est, où il est blanc, transparent. Il y a des gens qui lui posent des questions, il a le hockey, il est dans un état, comme vous ne l'avez jamais vu, et vous dites que ce mec-là, possiblement, il doit recuter pour revenir, on va se marrer. Mais bon, mais le film est pas mal. Honnêtement, le film est pas trop mal. Il est un peu gênant par moments, mais comme l'était le précédent finalement, donc ça me dérange
pas. Dans l'esprit. Non, voilà. Mais des scènes d'action en plus qui étaient plutôt pas mal.
Franchement, les scènes d'action sont pas trop mal. Elles sont méga cheap, mais ça colle bien. Elles sont super cheap, par contre. Vous avez des raccords numériques, ça veut jouer au plan séquence, mais bon, on a capté à 15 km que ça n'était pas vraiment, tu vois. Mais puis vous avez un personnage qui est encore plus. il est pire dans son dark side que Patrick Swayze, quoi. Là, il va tuer des gens hein, en premier. C'est-à-dire. Il tue des gens en premier. Il y a pas de, c'est pas une réponse. Hein.
Genre, non.
Voilà. Mais c'est non, je trouve ça assez rigolo.
Mais s'il leur arrache la gorge.
Non.
Il y a un truc de traché,
mais c'est pas le même.
Ouais. C'est pas le même truc.
Il y a une réinvention de la trachée, tu vois. Voilà. on l'arrache on la casse d'une autre manière, tu vois. C'est un vrai remake, quoi, tu vois. C'est la modernité.
Comme la scène aussi, la scène qui est protégée pour éviter de se prendre les bouteilles ou les trucs comme ça.
Ouais, mais alors pendant tout le film, j'avais un petit détail qui m'emmerdait, c'est qu'on n'a pas la cage intégrale sur les côtés, c'est ouvert. Le film, je disais à Lisée, mais putain, mais pourquoi ils ont pas les côtés? Ça n'a aucun sens. Ça me troublait vraiment.
Chier, quoi.
Quelqu'un peut venir sur le côté et je tombe une bouteille, tu vois. Ça va pas, quoi.
Ils ont mal pensé au cadre de l'image, peut-être.
Ouais,
non,
peut-être.
Non, c'est vraiment genre le grillage, mais que sur l'avant. C'est complètement con. Voilà. Mais bon, vous savez, on est plus
dans la même époque. Marvin, mais la question qu'on se pose tous, le point Shogun.
J'ai pas vu l'épisode d'aujourd'hui, donc je peux pas te dire là. Mais par contre, celui de la semaine dernière était peut-être un poil en dessous des autres, je dirais.
Ouais, mais
je pense qu'on arrive à l'épisode 5, on était dans le creux narratif de la. Tu vois, on est en vrai milieu de saison, quoi. Donc,
oui, mais
il promettait un truc.
C'est pas nul. C'est pas nul.
Mais non. Ah, mais pour l'instant, ce n'est pas encore. Non. Moi, je pense que ça va rester bien. Là, c'est bien parti. Après, il reste. Peut-être le moment le plus difficile à négocier, c'est maintenant. C'est-à-dire la deuxième moitié, avec ce qu'on nous promet à la fin du dernier épisode.
La bagarre.
On sent que ça va bagarrer, quoi. On va voir comment c'est géré, mais pour l'instant, ça continue de tenir, c'est régulier, il n'y a pas de soucis. Donc pour l'instant, le point Shogun, ouais, ça tient.
On est toujours sur du bon point là.
Pour l'instant, mon pari a fonctionné. Pour l'instant,
d'ailleurs,
la semaine dernière, il y avait Fabien et Vesper qui avaient conseillé, je crois, tous les deux X-Men 97, que j'ai lancé dans la foulée.
Alors, point X-Men, allons-y.
Hyper bien. C'est-à-dire que le premier épisode, je m'étais dit, bon, ok, sympa, ça va, c'est le retour des X-Men de l'époque. Mais voilà, ils ont montré qu'ils savaient le faire, c'était pas hyper dur non plus. Les épisodes 2 et 3, chef-d'œuvre, ils font des arcs d'un an de comics en un épisode parce qu'ils ont pas le temps. Et ça n'arrête plus, quoi. Hyper bien.
Yeah. Hyper bien, mais voilà. Justement, il n'y a pas un problème de prod dans ce truc. Il y en a pas un qui s'était fait virer là, chez X-Men 97, là.
Ah, je sais pas, j'ai vu tout à l'heure.
Il me semble qu'il y a un directeur ou un mec.
Saison 3 ou un truc comme ça, donc.
Ah ouais, ok.
Moins 3 saisons, quoi. Mais en tout cas, dans la prod et dans les histoires et dans certaines thématiques abordées, vraiment, vraiment assez intéressant d'avoir ça aujourd'hui.
Ok, donc X-Men 97. Bah après, moi, juste pour finir, c'était. Tu m'avais conseillé Fargo saison 5. Incroyable.
J'ai conseillé Fargo, mais j'avais pas lancé la saison 5 encore.
Ah ouais, bah du coup, la saison 5 de Fargo, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable.
C'est sur Canal Plus depuis.
J'ai jamais vu la série Fargo. C'est quoi? C'est un.
En fait, la première, elle adapte un peu le film. Et après, c'est juste, ça tourne dans le même univers à des époques différentes.
D'accord.
Avec toujours une espèce de recherche de la comédie absurde, en fait. Vraiment de l'absurdité, mais qui reste dans un équilibre quand même qui est vraiment casse-gueule, mais qui fonctionne très bien. C'est Noah Eli qui écrit ça.
Olé, ouais.
Ça, il me semble. Hein. Noah Eli. Et qui sera sur la série. C'est lui qui se chapeaute la série. Alien. C'est lui qui avait fait, Légion, ouais, qui était une très bonne série aussi. Ouais. Et sur Fargo, c'est incroyable. Hein, la saison 5, elle est folle. Il y a John Hamm. Moi, j'ai pas vu les autres saisons. Hein. Je me suis lancé dans la 5.
Ah ouais.
Ah, tu commences la série la saison 5. Bah pourquoi?
Oui, mais c'est des histoires différentes.
Tu peux.
Des histoires différentes à chaque fois.
Ouais. C'est anthologique. Après, il y a des personnages qui se retrouvent des fois, mais.
Mais là, franchement, c'est incroyable. La saison 5, elle est complètement folle. Donc, je sais même pas si je vais regarder le reste en me disant, parce que celle-ci est quand même haut niveau, donc j'ai peur d'être déçu, si tu veux. donc voilà. En tout cas, c'était une bonne recommandation.
Moi, j'ai regardé True Detective Night Country sans avoir vu la saison 2 et 3, tu vois.
T'as pas vu la saison 3 de
True Detective? Non.
Elle est pas mal.
Est-ce que c'est comme Green Book? Parce qu'il
y a Marshall Ali. Oh, connard.
Non, la saison 3, elle est intéressante en plus.
Elle est intéressante. Il y a un super jeu sur la temporalité.
Le jeu sur la temporalité fonctionne en plus avec le personnage de Ali perd la mémoire, en fait.
D'accord.
Et du coup, oui, il confond les époques et tout, donc c'est assez intéressant.
Et en plus, il est interviewé pour un true crime, je crois, un truc comme ça, pour un documentaire de true crime, et il se plante dans ses mémoires et tout. Enfin, ouais, c'est vraiment très bien, True Detective saison 3. Du coup, d'accord, c'est peut-être, pour moi, la deuxième meilleure après la première, quoi. Mais après, c'est un long débat. C'est un long débat.
Moi, j'ai beaucoup aimé Night Country, donc...
Ouais, je sais. Mais non, et puis, limite, un jour, on fera peut-être un épisode de shitlist bonus, hein, si vous voulez vous prendre... Voilà, si on voulait vous bagarrer, hein, y a pas de problème.
Est-ce qu'on a envie de se bagarrer sur Night Country, franchement?
Franchement,
je sais pas. Est-ce que les gens veulent nous entendre de bagarrer?
Moi, non. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 On n'a pas de blé. Tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.